Créer, c'est résister. Résister, c'est créer.
Elles sont une fois de plus les oubliées des programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle. Je veux parler des banlieues. Stigmatisées par certains, évitées par d'autres, les habitants des banlieues représentent pourtant un électorat considérable. Alors, comment faire entendre leur voix ? Comment résister face au silence des élus, des candidats ? Comment changer l'image négative des quartiers véhiculée par la plupart des médias ? La réponse semble toute trouvée. La résistance citoyenne se fera par les projets culturels. Erwan Ruti, fondateur de Ressources Urbaines, agence de presse des quartiers.
Je pense qu'aujourd'hui, si on commence à parler des banlieues 3 semaines avant les élections, de toute manière, ça sera foireux. Ça aurait dû être fait depuis tout le temps, non-stop, jour après jour, etc., depuis des années. Si on en parle 3 semaines avant les élections, c'est ceux qui vont parler le plus fort et le plus mal qui auront le dernier mot. C'est ceux qui font du storytelling à l'Elysée, Brice Hortefeux et compagnie. Donc eux, ils seront capables d'imposer un discours. La gauche n'aura pas de discours en face, parce que la gauche est tellement divisée sur ces questions-là que je pense qu'il faut mieux fermer sa gueule. Quand on est tellement divisé, faut mieux se taire. Sur les quartiers populaires, hélas, c'est le constat que nous on fait qui est tragique. Quand Assez le Feu a fait ses cahiers de doléances, quelques mois après les émeutes de 2005, qu'ils ont fait le boulot d'une certaine manière que les syndicats ou les partis politiques ou d'autres auraient dû faire. Eux seuls l'ont fait. Ce boulot-là, ils se sont fait jeter. Quand ils ont été apportés à l'Assemblée nationale en particulier, ils n'ont pas été reçus. Donc non seulement ils n'ont pas été aidés par aucun parti, aucun syndicat, etc., mais en plus ils n'ont pas été reçus par les plus hautes instances. Donc je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont susceptibles de relayer ce genre d'action sont totalement absents. Ils sont absents. Il faut que les gens dans les quartiers soient capables de s'organiser eux-mêmes. Le travail des médias fait partie de ce travail d'auto-organisation. Le but des médias, c'est d'élaborer un discours et de relayer ce discours. La place de la culture est déterminante là-dedans, parce que la culture, c'est aujourd'hui, dans les quartiers populaires, comment la culture populaire est en train de la culture populaire française est en train de se renouveler de A à Z.
Résistance citoyenne dans les banlieues, le rôle de la culture, c'était le thème d'une rencontre organisée par Banlieue d'Europe à Lyon fin février. La culture est-elle un moyen pour mener le combat et faire passer des messages ? Comment peut-elle nourrir la résistance citoyenne ? Les habitants en situation de grande précarité, pour certains, ont-ils encore la force de résister ? Reportage.
En France, on a un génie national que personne n'a encore remarqué.
Jean Hurstel, président fondateur du réseau Banlieue d'Europe.
C'est de fabriquer des bombes atomiques, mais des bombes atomiques sociales. C'est-à-dire, on parque, et ça c'est unique en Europe, on parque sur un espace extrêmement réduit, quelques hectares, tous les problèmes sociaux du pays. C'est-à-dire les ménages pauvres, 24% de ménages pauvres, alors que sa moyenne nationale c'est 10%. Les chômeurs et les chômeurs jeunes en particulier, 44 à 50% dans certains quartiers. Évidemment, les femmes isolées, hein, on appelle ça famille monoparentale, etc. C'est-à-dire que vous rassemblez tout ce qui est problématique dans cette société, on le confine comme dans une bombe atomique. On confirme tous les éléments dans une bombe atomique qui explose de temps en temps. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'elle n'explose pas plus souvent. Donc la résistance, si vous voulez, elle est pour le moment complètement anarchique. C'est-à-dire on brûle les voitures. C'est un peu ce qui se passe actuellement à La Réunion. Le chaudron à La Réunion, c'est ça. C'est un exemple. Quand on n'en peut plus, on passe à l'acte. Et la culture, justement, dans ça, c'est quel est le rôle de la culture comme résistance ? C'est d'éviter le passage à l'acte. C'est-à-dire, plutôt que de passer à l'acte, cette énergie formidable qu'il y a dans ces quartiers, faisons-en quelque chose de positif. Que ce soit la danse, que ce soit le hip-hop, est quand même une belle histoire, que ce soit d'autres formes, comme le rap ou d'autres, je crois, on peut transformer cette énergie qui se tourne vers la destruction pour en faire quelque chose de positif. Voilà.
Mais face aux difficultés quotidiennes que rencontrent les habitants, se loger, se nourrir, est-ce que vous pensez que la culture, ça va être une de leurs préoccupations pour pouvoir s'en sortir ?
Oui, tout à fait. Parce que si vous voulez, le problème, on l'a évoqué, c'est la confiance en soi. Un des problèmes, c'est la confiance en soi. Quand vous êtes d'un département comme le 9-3, vous êtes déjà marqué. Vous ne trouvez pas de boulot. Vous ne trouvez pas un logement non plus, etc. Et tout ça, si vous voulez, c'est aussi quelque chose qu'il faut construire, c'est-à-dire la confiance en soi, l'énergie, transformer l'énergie négative en énergie positive. Et là, la culture a un rôle énorme à jouer. Moi, j'ai vu des expériences en Europe où des gens qui étaient mes SDF, des jeunes SDF, des gens qui n'avaient pas de boulot, chômeurs depuis des années, etc., retrouvaient confiance en eux parce qu'ils participaient à un travail de création collective dans lequel ils étaient partie prenante. C'est-à-dire il y avait participation, expression de chacun, imagination, et œil critique sur la société, et ce qui fait que c'est une expérience tout à fait fondamentale pour un individu.
Alors vous le dites, les habitants ont l'envie.
Oui.
Est-ce qu'ils ont les moyens maintenant pour le faire ?
Ben écoutez, la politique de la ville, ces dernières années, était une politique surtout de réhabilitation urbaine, c'est-à-dire on repeignait et on refaisait les quartiers. Peut-être qu'on aurait dû, au contraire, trouver un mouvement et une force, si vous voulez, pour redonner à ces quartiers toute leur place et toute leur imagination et toute leur créativité, leur potentiel formidable.
Donc, il faut quand même des moyens pour que ça bouge culturellement.
Oui, ben oui.
Mais si la politique de la ville aujourd'hui ne répond plus, n'a plus les moyens, comment...
La politique de la ville a fait des milliards, a investi des milliards dans les bâtiments. Si 10% de ces sommes avaient été investies pour la promotion de la culture de ses habitants, eh bien, on n'en serait pas là actuellement.
Aujourd'hui, comment les habitants ils vont pouvoir se ressouder tous ensemble ? Tout à l'heure, on disait qu'il manquait peut-être un lien entre habitants pour que ça bouge positivement dans les quartiers.
Le constat que les gens sont de plus en plus isolés, de plus en plus individuels, c'est un choix politique, hein. C'est un choix politique, c'est quand même une politique libérale, néolibérale, qui fait, qui dit, l'État c'est le mal, chaque individu est privatisé. Il n'est plus que consommateur ou producteur, de moins en moins producteur d'ailleurs, de plus en plus consommateur, et que lorsqu'on réduit comme ça les individus à n'être plus que des fonctions économiques, ce qui est le cas, eh bien, on détruit une société. On est en train de la détruire, tout simplement. Et si on a la résistance consiste avec ces petits projets, les uns à côté des autres, pour le moment, ils sont un à côté des autres, si vous pouvez les coaliser ensemble, ça ferait une force extraordinaire. Mais on n'en est pas là pour le moment. Et peut-être, si les choses ne changent pas là, peut-être que ça produira aussi une explosion. Les explosions dans les quartiers sont sans lendemain, si vous voulez. Enfin, c'est des cris de rage, c'est pas une construction. Ce qu'il nous faudrait à l'avenir, c'est une dimension, effectivement, où tous ces projets pourraient se réunir et devenir une force de proposition pour la société qui vient, quoi. Je crois, si vous voulez, qu'il y a quand même, dans ces quartiers, une vraie force, et ça c'est la jeunesse qui l'apporte bien entendu, cette force de contestation radicale qui un jour ou l'autre émergera de ces territoires-là. Pas forcément demain, ça prendra peut-être du temps.
Thank you.
Résister, c'est créer. Émilie Dallage en est convaincue. Émilie est la présidente de l'association Atacafa dans le Nord-Pas-de-Calais. Depuis plus de 12 ans, Atacafa organise un festival par et pour les habitants, le Festival de la Louche d'Or, qui a lieu dans un des quartiers populaires de Lille, à Oisem, chaque 1er mai. Vous l'aurez compris, la Louche d'Or récompense la meilleure soupe faite par un ou des habitants. Mais on ne mange pas que de la soupe pendant ce festival. Des spectacles de théâtre, de musique sont organisés dans les rues. Et ça marche. Le festival attire chaque année de plus en plus de monde. Preuve, s'il en fallait encore une, que la culture a toute sa place dans les quartiers. Émilie Dallage.
À part la culture, je vois pas bien comment on peut produire. Enfin, c'est quand même ce qui nous tient ensemble, la culture. Et donc, c'est vraiment un élément fondamental pour les banlieues aujourd'hui et au-delà des banlieues, des grands ensembles, des quartiers populaires. C'est surtout important parce que c'est à la fois la possibilité de faire ensemble et puis de transformer. Alors, il y a une très belle formule qui est souvent reprise maintenant d'un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, qui dit qu'il faut transformer la vraie politique, c'est transformer l'équilibre et repartager le sensible. C'est-à-dire qu'on puisse voir, entendre autre chose que ce qui est proposé de manière majoritaire, si on veut dire. Donc on a à promouvoir de l'égalité et on a aussi à promouvoir de l'égalité culturelle qui n'est pas respectée encore aujourd'hui dans les banlieues, qui continue à être stigmatisée. C'est-à-dire des genres entiers de la culture continuent à être stigmatisés. Toutes les avancées qui ont pu être faites autour des méthodes d'éducation populaire qui étaient vraiment axées sur l'émancipation ont été balayées et pas vraiment reconstruites et pas vraiment travaillées. Et aujourd'hui, du coup, on se rend compte que l'effritement à la fois du lien social, de la confiance en soi, est aussi très minoré. Dans ces quartiers populaires, il y a de la culture. C'est pas des lieux sans culture, au contraire. C'est des lieux dans lesquels la culture est très vivante et où les gens ont des pratiques culturelles qui sont très intenses, qui sont, par exemple, toutes les pratiques liées à la mobilité, liées au bilinguisme, liées, qui sont des vrais atouts et qui sont des choses qui sont tellement importantes dans notre monde contemporain qu'on a même du mal à comprendre qu'elles ne soient pas davantage valorisées, davantage prises en compte. Aujourd'hui, ce sont des zones qui sont traversées vraiment par le monde, qui sont au cœur du monde et sans doute ce sont les zones les plus mondialisées de notre territoire. Et au lieu de s'en servir comme d'une véritable chance, et même pas simplement comme une ressource, mais comme une vraie reconnaissance, dans une vraie reconnaissance de ses compétences et de ses couleurs et de ses sons et de ce sensible qui émerge de là, eh bien, on a une chape de plomb très forte qui tombe, y compris sur les associations qui y travaillent, qui font souvent du bon boulot, mais dont on a l'impression qu'elles sont arrêtées très vite par une sorte de plafond de verre. Hein,
Qui met ce plafond de verre, cette chape de plomb ?
Je pense que c'est un phénomène qui est largement social. Ça ne sert à rien d'aller accuser les institutions ou d'accuser les médias. Je pense que c'est un problème largement collectif de catégorisation du monde. Hein, une association, ça fait du petit travail, donc on n'a pas à l'aider à grandir, on n'a pas à certains stades, on va confier ça à une grande institution culturelle ou qui va envoyer des gens qui n'y connaissent pas grand-chose sur le terrain pour essayer de monter des projets foireux, grosso modo. Hein, mais au lieu d'investir vraiment et d'aider à développer des talents, on a plein d'exemples de projets qui sont aidés à leur début, dont les acteurs sont un peu portés. Et puis surtout, le passage du stade projet émergent à institutionnalisation du projet, professionnalisation des acteurs, reconnaissance de leur professionnalité et création concrète et confiance, là ne s'opère plus. Il y a quelque chose de l'ordre, un peu du plafond de verre, comme pour les femmes en entreprise. Hein, si vous voulez, il y a un certain moment où tout de même, on va retourner à la case blonde. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Il y a un petit peu ce phénomène-là qui se produit aussi pour les porteurs de projets en banlieue.
Comment casser ce phénomène-là, puisqu'il existe quand même depuis pas mal d'années.
Oui.
Comment on fait pour avancer ?
Mais je pense que les comment on fait pour avancer? Je pense qu'aujourd'hui, la société civile, elle est très dynamique. Elle s'est aussi redynamisée, je pense, dans la crise, qui peut être, comme on l'a vu, par exemple, on l'a vu très bien en Argentine, par exemple, hein, quand tout s'est effondré, ce qui a tenu et ce qui a permis de revitaliser, même si c'est encore très, 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 très difficile, hein, c'est les réseaux de culture et de projets culturels qui faisaient du théâtre participatif, qui faisaient du théâtre communautaire, qui a continué à travailler sur de l'échange, sur du lien, sur la construction de soi, sur la projection de soi, sur la possibilité de maîtriser son destin et de réinventer un monde. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est, je pense que le monde d'aujourd'hui, il est en quête de ça. Il va falloir réinventer un monde. On le sait bien, de temps en temps, on se met la tête dans le sable, mais on sait bien que le monde d'aujourd'hui tient à peu de ficelles qui sont en train de craquer, et que donc il va bien falloir le réinventer. Et on a des possibilités de le faire à partir de l'innovation sociale que portent les habitants de ces quartiers qui ont l'habitude de la débrouille. Ils ont l'habitude de l'invention, ils ont l'habitude de la solidarité, parce que sinon ils s'en sortent pas.
Voilà. Mais est-ce que les habitants aujourd'hui, ils en ont pas un petit peu marre de toujours essayer de porter une parole qui n'est malheureusement pas forcément entendue?
Je pense qu'il y a un grand, grand, grand découragement. Et puis que les initiatives, à force d'être brisées, faut bien le dire, se sont de plus en plus... s'épuisent. On a aussi des générations différentes, là, de jeunes gens déscolarisés très tôt, qui ont vécu, pour reprendre le titre, hein, du film qui vient de sortir, qui ont vraiment vécu la désintégration. Et je ne suis pas en train de dire que ce sera très facile. Je pense que tout ça, ça s'accouche aussi dans la douleur, parfois. On l'a vu en 2005, avec les émeutes, qui n'ont pas du tout été, encore une fois, même ce moment-là d'explosion n'a pas été suivi de conséquences. Enfin, quand même, une conséquence, c'est qu'on a commencé à parler des théories postcoloniales, qu'on a quand même commencé à voir arriver une mémoire de la colonisation, une mémoire et une histoire, surtout de cette période-là qui réémerge. Et donc, pour tous et collectivement, et à partir de ce moment-là, donc on commence à affronter ces problèmes, on commence à affronter ces questions, mais il a fallu 2005.
Résistance citoyenne dans les banlieues, le rôle de la culture, production et réalisation, Anis Claire.